Merci. J'ai l'habitude de dire que, bien sûr, on vieillit physiquement et psychologiquement, mais spirituellement, on a 33 ans, parce que Jésus est ressuscité à 33 ans. Le prenez pas trop scientifiquement, hein, mais c'est quand même un fait que nous avons l'âge de Jésus ressuscité, dans un sens. Oui ? Ah oui, c'est vrai. Ouf. Voilà. Et je regardais ces linceuls. C'est beau. Ce linceul blanc, d'habitude, on a le rouge qui nous rappelle toujours que Jésus n'est pas seulement ressuscité, mais qu'il a été aussi crucifié et que le monde a basculé dans ces 3 jours. Mais là, il est blanc parce que c'est Pâques. C'est surtout le blanc qui, évidemment, domine. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ce linceul, il est resté dans le tombeau. Mais Jésus, non. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, s'il y avait eu que le tombeau vide comme signe, on n'aurait pas été pleinement satisfait. On se serait dit, oui, d'accord, on dirait que Jésus n'est plus là, mais il est où ? Et on aurait dit peut-être aussi que des gens l'ont pris, comme le bruit a couru. Ah, c'est ses disciples qui l'ont pris pour faire croire qu'il était ressuscité. Argument ridicule. Parce que vous imaginez des gens qui viennent chercher un cadavre, qui le cachent pour faire croire qu'il est ressuscité alors qu'il ne l'est pas. Et après, ils auraient donné leur vie pour ça. Ils seraient partis évangéliser pour un message qui n'est pas sûr. Et encore aujourd'hui, pendant 2000 ans, il y aurait des gens qui auraient été bernés par une histoire comme ça. C'est ridicule. Ces paroles sont ridicules. Heureusement, le Seigneur est apparu. Ceux qui font notre foi, c'est que le Seigneur est apparu réellement. Et quand il est ressuscité, ça a été très calme. À part chez Matthieu. Là, il y a des phénomènes, c'est le seul qui nous raconte des phénomènes vraiment... Enfin, c'est surnaturel de toute façon, la résurrection est surnaturelle. Mais des événements adjacents qui ont accompagné la résurrection. Il y a eu des tremblements de terre, ça c'était encore pendant qu'il était sur la croix. Pendant les 3 heures de temps, entre 3 heures de l'après-midi et... entre midi et 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres, il y a eu des phénomènes cosmiques pour montrer qu'il se passait quelque chose à travers cette mort qui n'était pas comme d'habitude, qui n'était pas autre, qui était une autre mort que celle des humains. Et puis alors, on nous dit effectivement cette chose quand même assez... Moi, oh là là. On nous dit que des gens sont sortis des tombeaux. Alors évidemment, notre esprit critique occidental va dire, oui, et puis alors, ils sont où ? On n'en a pas parlé tellement, même à Jérusalem. Ça, on nous dit qu'ils ont été vus par des gens à Jérusalem, mais il n'y a pas eu plus de retentissement que ça. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un mystère, je n'explique pas. Je pense que ces gens qui sont sortis des tombeaux, que la Bible effectivement qualifie de saints, sont montés avec le Seigneur quand, est-ce que c'est tout de suite en anticipation, dans les lieux célestes où Jésus devait aller. Mais je ne pense pas que c'est avant, c'est peut-être après, peu importe. C'est quelque chose qui dépasse complètement notre raison. Le fait est que la résurrection de Jésus est aussi la résurrection des saints. C'est aussi la nôtre. Alors moi, je n'explique pas plus loin, mais je crois que cela... Mais par ailleurs, ça a été discret. D'abord, y a des femmes qui sont venues là, alors que le jour se levait à peine. Elles arrivent avec des aromates, elles avaient préparé 2 ou 3 choses pour le corps. Ce n'était pas un embaumement, mais c'était quand même une sorte de prolongation avec un parfum, etc. Bon, elles sont installées, elles sont parties. Il y a juste une qui est restée, Marie-Madeleine. Et puis après... elle se trouve là, on va d'ailleurs lire ce passage quand même, il est tellement Il est tellement extraordinaire. J'ai à cœur de parler plus que de la résurrection, j'ai aussi à cœur de parler de la croix aujourd'hui, parce que on pourrait être tenté, quand on fête juste Pâques, sans marquer le coup à Vendredi Saint, de mettre l'accent sur la gloire, sur la vie triomphante, mais peut-être qu'on oublierait presque les souffrances de la croix. Or, l'un est lié à l'autre complètement. Complètement. Vous allez le voir tout à l'heure. Alors, je lis dans Jean chapitre 20, le premier verset, puis après on saute au verset 11. Le premier jour de la semaine, donc pour nous ça correspond au dimanche, Marie de Magdala se rendit, ou Myriam du village de Magdala en Galilée, elle se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore nuit, et elle vit que la pierre était roulée de devant le tombeau. Alors après, quand elle voit ça, elle enquête pas plus loin, elle est complètement bouleversée, elle court voir les disciples qui étaient à quelques, peut-être 500 mètres ou un kilomètre de là, et elle dit, il est plus là, le tombeau est vide, etc. Il y a deux des... Enfin, ils accueillent cette nouvelle avec beaucoup de scepticisme, dans l'évangile de Marc en particulier, on voit ça. Mais il y a deux des apôtres, Pierre et Jean, qui courent immédiatement voir. Ils constatent les faits, ils disent, oui, le tombeau est vide, il y a juste le linceul. Il y a les linges qui, même les linges de la tête, on nous dit, ils ont gardé la forme ronde. C'est un signe, ça aussi. Et puis ils repartent, ils ne savent pas ce qu'il faut penser. Pourtant, Jésus leur avait dit qu'il allait ressusciter, mais c'est comme si c'était sorti de leur tête, quoi. Et voilà. Ensuite, eh bien voilà ce qui se passe. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus. Et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie, ou Myriam. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle l'avait vu, le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. C'est quand même extraordinaire, parce que cette Marie Madeleine, ça veut dire Marie de Magdala, Marie Madeleine, elle avait 7 démons, et c'était une démoniaque quand Jésus l'a rencontrée. De haut niveau, pour quelle raison, on n'en sait rien, mais elle était habitée par des esprits impurs. Et Jésus l'a délivrée, on ne sait pas dans quelles circonstances. Mais le fait est que, à partir de ce moment-là, cette femme très spéciale, qui n'était pas comme les autres qui sont mentionnés, qui vont aussi au tombeau. Il y a une autre Marie, il y a la mère de Joseph, enfin, on en nomme trois, mais il y en avait peut-être plus. Elle, elle était sortie de rien. Et on peut dire que dès lors, c'était une des plus fidèles qui a suivi Jésus du commencement jusqu'à la fin. On peut dire que dès lors, Jésus est devenu tout, toute sa vie pour elle. Je pense qu'il y a peu de gens pour qui Jésus a été aussi important, autant que pour l'apôtre Pierre, ou pour l'apôtre Jean, ou pour l'apôtre Paul. Jésus est devenu toute sa vie. Elle était même à ce moment-là seule, en larmes, tellement elle était attachée à son Seigneur, qui l'avait libérée et qu'elle avait entendu ses paroles. Alors voilà que elle est là et deux anges apparaissent dans le tombeau, là où elle se disait, mais où est-ce qu'il est ? Deux anges lui parlent, femme, pourquoi pleures-tu ? Et Jésus, qui va apparaître juste après, lui pose la même question. On pourrait dire, oui, mais on sait bien pourquoi elle pleure, c'est évident. Et peut-être que c'est évident, mais le Seigneur, il a soin de nous faire parler. Il a soin de nous accompagner au point de nous faire parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça va ? Quelles sont ces larmes ? Qui cherches-tu ? Avec les disciples d'Emmaüs, Jésus a fait la même chose. Il ne le reconnaissait pas non plus, parce que notre vue n'est pas, c'est pas parce que Jésus est ressuscité que tout d'un coup notre vue devient parfaitement claire. Il y a des fois où on ne reconnaît pas. On s'y attend tellement pas qu'on ne reconnaît pas. Et puis il y a une sorte de gloire qui est là qu'ils n'ont pas eu l'habitude de voir. Alors, ils ne le reconnaissent pas toujours. Et les disciples d'Emmaüs non plus l'ont pas reconnu. Mais à un moment donné, Marie-Madeleine dit, ben voilà, je sais pas, Jésus, on l'a enseveli ici dans cette tombe, mais il est plus là. Il est plus là. Je sais pas où ils l'ont mis. Quand on sait pas, on dit ils, hein. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Qui ça, ils ? On ne sait pas. Justement. Où est-ce qu'il est ? Et puis, elle se retourne. Elle voit un homme là. Elle ne sait pas qui c'est. C'est Jésus. Jésus est là. Derrière elle, elle a dû se convertir. Hein ? Parce que se convertir, ça veut dire se retourner. On nous dit qu'elle se retourne, elle se convertit. Elle voit cet homme qu'elle prend pour le jardinier. Oh, c'est toi qui l'as pris. C'est toi. Si tu dis-moi où il est et j'irai le prendre. Ça aussi c'est extraordinaire. Dis-moi où il est et j'irai le prendre. Mais qu'est-ce qu'elle va prendre? Si jamais ce jardinier lui dit oui, moi je sais où je l'ai mis, viens. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va prendre? Un cadavre. Dans son raisonnement, dans la situation où elle est, c'est un cadavre qu'elle demande, un cadavre. Bien sûr, un cadavre glorieux d'un côté, qui a été tellement extraordinaire dans ses 33 ans de vie sur la terre. Mais enfin, un cadavre quand même. Et je me dis des fois que même les gens qui sont assez sympathisants pour le message de l'Évangile, s'ils n'ont pas eu la révélation du Seigneur, ils n'ont guère plus d'espérance que d'avoir un cadavre à la maison, peut-être sous forme d'un monument, peut-être une statue, peut-être un autel particulier dans une cathédrale. Mais c'est pas le Christ vivant. Le Seigneur, il veut nous faire voir le Christ. Il veut se faire voir vivant. Et nous avons besoin de voir le Christ vivant. On l'a vu mort, il fallait qu'on le voit mort, dans la honte, nu, cloué. Mais là, il est aussi nécessaire qu'après ça, alors que nous sommes en pleurs, Alors que peut-être nous souffrons, certains d'entre nous ont perdu des proches à cause de la pandémie. Et voilà, ils s'interrogent, ils se disent pourquoi ? Pourquoi chez nous ? Ça pourrait être moi. On a des manques. Pendant cette crise que nous vivons ces jours-ci, beaucoup de gens vivent des manques. Il nous manque. Jésus manquait à Marie-Madeleine. C'était bien plus grave encore qu'une épidémie qui vous touche. Même si vous ne mourrez pas, de vivre avec un manque, avec ce qu'il y a de plus précieux, c'est encore pire que la mort, dans un sens. Donc, quand il y a un manque, on est dans le désarroi. Comment ? Il n'est plus là. Il est où ? Il y a une solitude. Qui c'est qui disait, je crois que c'est Alfred de Vigny, le poète français, qui disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». C'est vrai ? Vous pouvez être dans une foule. Mais un seul être vous manque, celui que vous vouliez qu'il soit là, ça peut être un conjoint que vous avez aimé toute votre vie qui n'est plus là. Ça peut être des enfants qu'on a perdus, plus là. Ça peut être une place de travail auquel on tenait, qui nous était réservée. On l'a manqué, c'est un autre qui a pris la place. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de situation où on est en manque. Il me manque justement ce que je voulais. Il me manque précisément ce qui m'est le plus précieux. Et quand il vous manque Jésus, il vous manque tout. Ceux qui ont connu Jésus, comme Marie-Madeleine, comme les apôtres, comme d'autres gens encore, qui les ont côtoyés de près, qui ont eu l'espérance d'une vie éternelle, qui ont eu l'espérance d'un royaume de Dieu qui allait venir, et tout d'un coup c'est fini. Parce qu'il est mort et enterré, avec des gens autour de vous qui vous disent « quand on est mort, on est bien mort ». Eh bien, il vous manque tout, et c'est terrible. Mais là, voilà que Marie-Madeleine, je ne sais pas pourquoi elle se retourne, elle voit cet homme, et elle lui dit si c'est toi qui l'as pris, alors dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre ». C'est pathétique cette parole, « j'irai le prendre ». Quelqu'un qu'on peut prendre pour le mettre où on veut, c'est pas le Seigneur. C'est peut-être un souhait, tout humain, mais c'est pas le Seigneur. Vous ne prenez pas le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Vous ne prenez pas le Fils de Dieu qui a été glorieux dès l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Vous ne le prenez pas sous le bras en disant « je vais le mettre à la place que moi j'aimerais qu'il soit ». Non, ça marche pas. Et Jésus, qui connaît son cœur, lui dit cette simple... Il l'appelle par son nom, Myriam. Myriam. Il a dû le dire d'une manière telle que elle a su que c'était Jésus. Elle l'a reconnu. Comme les disciples d'Emmaüs aussi qui ont reconnu Jésus. Quand est-ce qu'ils l'ont reconnu ? Comment ? Oui, quand il a rompu le pain. Quand Jésus a rompu le pain, elle a partagé avec eux. Tout d'un coup, leurs yeux se sont ouverts. Il les avait préparés, il leur avait dit aussi, à eux aussi, il a dit, de quoi vous parlez là en chemin ? De quoi vous parlez ? Et ils ont dit, mais comment ça, tu nous demandes, tu sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem, mais tout le monde en parle, etc. Et il leur ouvre les Écritures. Il leur ouvre certains passages prophétiques des Écritures qui montrent qu'il fallait que ces choses arrivent et que c'était prévu dans le plan éternel de Dieu. C'est extraordinaire. Et leurs yeux s'ouvrent. Eh bien, pour Marie-Madeleine, c'est ça aussi. Le Seigneur est là. À un moment donné, on n'en sait rien. Peut-être pendant un temps, on est en désarroi. On porte un deuil qui a de la peine à finir. On verse des larmes, on ne peut pas faire autrement. Même des hommes versent des larmes. Enfin, on est complètement désorienté. Et voilà qu'à un moment donné, Jésus est là. Et nos yeux vont s'ouvrir. Ah, mais je ne savais pas. Tu es là, Seigneur. tu me parles, tu me regardes, tu m'appelles par mon nom. Et quand Marie-Madeleine réalise cela, elle lui dit « Rabouni ». C'est assez spécial ce terme de « Rabouni ». C'est un terme qui veut dire « rabbi ». Les rabbis en Israël, c'était les maîtres de la parole de Dieu, c'était ceux qui enseignaient, c'était ceux qui priaient pour le peuple. Mais avec une nuance, dans « Rabouni », c'est... Ah, moi j'aime ce terme, parce que « Rabouni », c'est plus que « rabbi », c'est comme si elle disait « mon rabbi chéri ». C'est un petit peu cette nuance-là. Alors je ne veux pas trop insister, parce qu'après vous allez dire « ah oui, alors ça prouve que le film qui dit que Marie-Madeleine était la femme de Jésus, c'est... » Non, non, non. Mais ça veut quand même dire « mon rabbi que j'aime ». Parce qu'elle l'aimait, pas d'une manière érotique, je ne pense pas, mais en tout cas elle l'aimait de manière spirituelle. Et puis ensuite elle va lui dire « kurios », enfin elle a dû dire « adon » en hébreu, ou en araméen « adon », qui veut dire « le Seigneur ». En grec c'est « kurios », c'est un titre, c'est le plus haut titre qu'on peut donner à quelqu'un, « kurios » en grec. Les empereurs, ils se faisaient appeler « kurios », c'était le titre suprême, ils se prenaient pour Dieu. Mais Jésus est réellement le curios. Et Marie-Madeleine devra faire tout le chemin de Rabouni, qui est encore un peu, qui est encore très terrestre, à curios, où elle va comprendre à un moment donné qu'il est véritablement le Seigneur de tout, le Fils éternel du Dieu éternel. Qui englobe tout dans ses mains. De Rabouni à Kurios. D'ailleurs, Jésus lui dit cette phrase énigmatique, « Ne me touche pas. » Pourquoi ? Alors que dans un autre évangile, on voit les femmes qui touchent les pieds de Jésus. Ça ne fait pas problème. Et là, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas. » Pourquoi ? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et votre Père, vers mon Dieu, et votre Dieu. Mais quel rapport ? Qu'est-ce que ça change ? Pourquoi elle ne pourrait pas toucher ? Je crois que ça veut dire ceci. Tu t'accroches à moi, encore à la manière terrestre. C'est normal. Mais il y a encore quelque chose de un peu trop, peut-être charnel là-dedans. Je dois d'abord monter vers mon Père. Est-ce qu'il parle de l'ascension 40 jours plus tard, ou est-ce qu'il parle d'une montée intérieure par l'Esprit ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il lui dit, je dois d'abord monter vers mon Père et vers mon Dieu. Et là, quand je reviendrai, vous pourrez apparemment me toucher, mais ça ne sera plus le même genre de toucher. Ça ne sera plus un toucher terrestre, charnel, ça sera un toucher spirituel, ça sera quelque chose de surnaturel. Vous allez comprendre qui je suis et c'est moi qui vous toucherai en fait. À la Pentecôte, le Seigneur nous touche par le Saint-Esprit. Alors voilà ce que Marie-Madeleine est appelée à connaître. Et là, ce sera vraiment « Oh, curios, oh, Adonai, Jésus est Adonai ». Il n'est pas le Père, on ne nous dit jamais que Jésus est le Père, mais il est quand même Adonai, il est Kurios, il est Dieu, le Fils. Comme le Père est Dieu, le Père, et comme le Saint-Esprit est Dieu, Esprit. Bon, j'arrête là, parce que mon but est encore ailleurs. J'aimerais que nous comprenions qu'on ne peut pas détacher cette expérience infiniment glorieuse. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a touché quand j'étais adolescent et que je me suis tourné vers le Seigneur à la suite d'un témoignage puissant et que j'ai osé faire ce que disait ce témoin qui était Sundar Singh, qui disait « Si vous voulez le connaître, priez-le ». Je l'ai fait. Et le Seigneur vivant, ressuscité, m'est apparu non pas de manière visible, mais de manière intérieure, avec une évidence une demi-heure après ma prière, une demi-heure après, j'étais inondé de l'évidence que Jésus était vivant. Vivant. Ça a orienté toute ma vie, mais ça n'était pas tout. J'ai dû apprendre dans les années suivantes que j'avais aussi à considérer Jésus sur la croix. Je connaissais l'histoire, je la connaissais. J'allais à l'école du dimanche, j'étais au catéchisme, je connaissais. Mais je n'avais pas la révélation. Et là, j'ai compris petit à petit que non seulement Jésus était vivant, le message de Pâques qu'on aime, on l'aime spécialement le message de Pâques, parce que c'est tellement réjouissant, mais qu'il fallait aussi considérer Vendredi Saint. Alors à l'époque, je ne sais pas, j'employais pas ces termes-là, mais qu'il fallait aussi considérer Jésus sur la croix. Jésus souffrant, Jésus insulté, Jésus déshonoré, Jésus dépouillé, Jésus qui n'était plus le glorieux rabbin à miracle qui parcourait les rues de la Galilée ou de la Judée. Qu'il fallait aussi porter les regards sur cette réalité-là. On la connaît parce que c'est tellement central dans l'Évangile que dans la plupart des églises, on en parle presque chaque dimanche d'une façon ou d'une autre. Mais il faut se concentrer davantage là-dessus. Parce que si on se contente simplement de la gloire de la résurrection, de la gloire de Pâques, il y a quelque chose qui va nous manquer. La résurrection sans la croix, c'est un phénomène éblouissant qui touche un certain nombre de gens et pas d'autres. Les autres disent, mais non, vous croyez des choses qui sont juste des légendes, c'est pas possible. Qui vous touche peut-être vous, oui, mais où est le salut ? Est-ce que parce que Jésus est ressuscité, nous sommes sauvés ? S'il n'y avait que la gloire de Pâques, où serait le salut de, où serait le lavage de mes péchés ? Où serait le sang qui purifie ? Où serait le don d'une vie sainte, la seule ? Pour que descende le Saint-Esprit du ciel sur la terre, sur moi, sur vous. Et c'est la raison pour laquelle il faut tenir compte d'un autre passage que je lis maintenant, qui se trouve dans Jean chapitre 12. Oh, cette parole est connue, mais il faut creuser. Jésus... Oui, il y avait deux. Il était avec ses disciples à Jérusalem. Là, c'était le dernier voyage à Jérusalem. Et puis, on nous dit qu'il y avait deux Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Deux Grecs. Alors, est-ce que c'était des Juifs qui vivaient en Grèce ? Plus probablement, c'était des non-Juifs, mais qui étaient quand même des prosélytes. On appelait ça des prosélytes, des gens qui s'intéressaient au Dieu d'Israël et qui étaient intrigués par le Dieu d'Israël et qui voulaient en savoir plus. Ils interpellent ils interpellent Philippe. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec insistance, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Ils savaient que c'était un de ceux qui le suivaient. Philippe, qui était plutôt réservé, presque un peu timide, comme parmi les douze, Philippe alla le dire à André, qui était le frère de Simon-Pierre, André. Et André, lui, et Philippe, ils allèrent directement vers Jésus. Et probablement, ils lui ont dit, « Seigneur, il y a là deux gars qui s'intéressent, ils aimeraient te connaître, ils aimeraient savoir qui tu es. Est-ce qu'on répond favorablement à leur demande ou pas ?» Et Jésus fait cette réponse étonnante. Jésus leur répondit, est-ce que c'est juste aux deux disciples ou bien à ces Grecs, je ne sais pas. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Bizarre comme réponse. L'heure est venue où le Fils de l'homme, il s'appelait très volontiers le Fils de l'homme, c'était le titre que Jésus préférait se donner, c'était assez discret. En fait, c'est un titre messianique puissant qu'on trouve deux fois dans le livre de Daniel, mais ce n'était pas trop connoté dans le peuple. Hein. C'est un peu... on ne savait pas trop. En vérité, je vous l'assure, si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On pourrait s'imaginer que ces Grecs, ils voulaient proposer à Jésus, c'est la thèse en tout cas d'un exégète célèbre, un Suisse d'ailleurs qui s'appelle Frédéric Godet, il dit probablement que ces gens sont venus parce qu'ils voulaient proposer à Jésus, en voyant l'accueil quand même très mitigé du Messie en Israël, il y avait beaucoup de gens, les autorités étaient contre lui, ils disaient non, c'est un faussaire, c'est pas juste, etc. Ils voulaient peut-être proposer à Jésus de venir en Grèce. En disant les Grecs, c'est des gens qui cherchent, c'est des philosophes, il y en a qui cherchent vraiment la sagesse, la vérité. Tu aurais peut-être plus de succès là-bas, en Grèce. Et tu pourrais venir, on pourrait te faire une place. Et Jésus, par sa réponse, il ne répond pas directement à cette sollicitation. Mais c'est comme s'il leur disait, tranquille les gars, parce que moi, je ne vais pas sortir d'Israël. Le Seigneur ne m'a pas donné un mandat de parcourir les nations pour essayer de convertir des gens de toutes les nations, parce que je circule, je voyage, je prêche, il y a des miracles, les gens sont subjugués. Non, les prophéties ne parlent que des descendants de Jacob, Israël, et je vais rester là parce que c'est là que le oint de Dieu doit donner sa vie. Mais il va être glorifié, il parle de glorifié. Hein? Si on regarde au début, il dit... l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Comment ça, glorifié? Tu serais plus glorifié si tu allais en Grèce. Tu pourrais te tailler un succès international, parce que Athènes, c'était comme Paris aujourd'hui, la capitale de la culture mondiale. Eh bien non, non. Il va rester là, parce qu'il doit être glorifié là. Et quelle est sa gloire, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être comme un grain de blé précieux, en or, 24 carats, ou en diamant, le seul qui est comme ça, il n'y a pas d'autre comme ça. Mais c'était comme un grain de blé, et Jésus se compare à un simple grain de blé en disant, si le grain de blé qui est jeté en terre, normalement un agriculteur, il ne va pas garder tout un grenier de grains pour le plaisir de regarder son grenier. Moi, j'ai connu chez mes grands-parents qui étaient agriculteurs un oncle et une tante. Ils avaient un vrai grenier, comme on n'en trouve plus depuis longtemps, un vrai grenier à grains. Le canton de Vaud aurait bien voulu qu'il devienne un monument historique. Malheureusement, ils l'ont cédé dans un autre village. Enfin, bref. Mais un agriculteur, il ne va pas garder son grenier comme ça des siècles, sans rien en faire. Bien sûr, il pourrait quand même se rendre utile, parce que s'il y a beaucoup de grains, et dans un grenier, il y a des millions de grains, peut-être même des milliards, vous pouvez subsister un moment, vous pouvez faire du pain pendant quelque temps, manger, d'accord, mais au bout d'un certain temps, ça sera fini. Fini. Tandis que Jésus dit, attention, si vous avez un grain de blé et que vous acceptez de vous en défaire, vous le laissez livrer à la terre, vous ne le voyez plus, il est recouvert, vous l'avez perdu, il n'est plus là. Il n'est plus là en tout cas en tant que grain. Eh bien, c'est la condition pour que ce grain se multiplie et en donne d'autres. Et Jésus leur dit... Vous avez besoin de découvrir ce que c'est la gloire. La gloire, c'est pas simplement d'être le plus beau grain qu'on va mettre dans un écrin de velours pour le mettre en exposition pour que tout le monde vienne l'admirer, parce qu'un grain comme ça, on n'avait jamais vu. Non. mais c'est le livrer à la terre pour qu'il se décompose, qu'il se dissocie, qu'il ne soit plus un grain, mais qu'il devienne une bouture, quelque chose qui sort de la terre, une semence. Les hommes y voient la conservation des choses pour eux, leur vie. Il faut améliorer sa vie, il faut la rendre la plus attrayante possible, il faut se garder en santé, il faut ceci, il faut gagner de l'argent, il faut être connu dans les journaux, dans la presse, parce qu'on a obtenu des succès. Ça, c'est la conception de l'homme, c'est garder le grain dans un écrin et de ne rien en faire d'autre. Alors que la vision de Dieu, ce n'est pas de garder un grain dans un grenier, c'est une moisson. La vision de Dieu, c'est de faire de l'humanité une moisson. Une moisson de milliards et de milliards et de milliards de grains qui vont ressembler aux grains 24 carats qu'on aurait exposés dans un musée si on avait suivi le plan des hommes. Mais Jésus suit le plan de Dieu. Et il dit, je vais être livré à la mort. Et c'est une nécessité. Parce que si nous voulons voir la moisson que Dieu a en vue avec une humanité rachetée, nouvelle, sauvée, lavée de ses péchés par le sang de celui qui va mourir, là il y aura une gloire, là il y aura un début, là il y aura quelque chose qui va se passer parce que le grain va donner un épi, parce qu'il va ressusciter des morts. C'est là que la résurrection prend tout son sens. Si on saute directement à la résurrection pour parler de Jésus comme la star des stars, alors là, on n'aura jamais vu, bien sûr, le monde pourrait s'éblouir et dire « Oh, ça, alors !» Mais ça serait rien. Le Saint-Esprit n'aurait pas été libéré pour venir sur nous et la justice de Dieu n'aurait pas été accomplie. Parce que la justice de Dieu, c'est encore autre chose que la justice des hommes. La justice des hommes, elle est toujours contestable. Mais la justice de Dieu, ah, ça c'est autre chose. Il faut donc que le grain qui est tombé en terre meure. Eh oui. C'est un peu pénible cette vérité. On n'aime pas trop, moi non plus. Pourquoi, Jésus, a-t-il dû mourir ? Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans une mort préalable. Vous ne pouvez pas avoir une résurrection si celui qui ressuscite n'a pas été mort d'abord. Et mort pas pour rien, pas pour faire du spectacle, mais parce qu'il fallait qu'il meure. Parce qu'il fallait que la justice soit faite. Parce qu'il fallait que le Seigneur nous rejoigne jusque dans le séjour des morts. On nous dit clairement que Jésus, à un moment donné, il est justement dans cet épisode de Matthieu que Christophe évoquait au début, ces gens-là, ils étaient dans le séjour des morts. Et c'est le fait qu'ils se soient relevés montre que Jésus est descendu au séjour des morts. Il est descendu chez ceux qui sont morts dans le déluge et qui avaient péché gravement. Il a été, d'après l'apôtre Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 3 ou 4, il a été les évangéliser. Il a été dans le monde des puissances des ténèbres et il a fracturé par sa mort sainte, par sa justice sainte accomplie, il a fracturé les portes de l'enfer. Et les morts, certains morts ont pu ressusciter. Ils sont montés, comme si Jésus leur disait, allez les gars, montons à l'étage supérieur, dans le ciel, afin de préparer le retour sur la terre. Parce que le but, ce n'est pas juste le ciel, le but, c'est la terre. Nous n'attendons pas juste d'être au ciel avec des harpes sur des nuages en train de jouer pour l'éternité. Nous revenons sur la terre avec Jésus. C'est ça le but. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de juste céleste. Oui, il est céleste, parce que l'Esprit de Dieu est céleste, parce que Dieu est céleste. Donc le royaume de Dieu est céleste. Mais le miracle, c'est que le royaume de Dieu, il est aussi terrestre. Jésus revient sur la terre avec les siens, élevé et redescendu dans la gloire. Jésus va faire descendre la gloire céleste pour la... Avec nous, nous descendrons avec la gloire céleste pour instaurer sur la terre une nouvelle terre. À un moment donné, ça sera une nouvelle terre. Je passe le problème du millénium qui s'inscrirait normalement dans l'économie présente, de la terre présente. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. En tout cas, le fait est qu'il y aura à un moment donné un nouveau ciel et une nouvelle terre avec la gloire de Dieu. Alors, c'est ça, cette image que le Seigneur nous laisse avec le grain de blé, c'est extraordinaire. Mais attention, cette image du grain de blé, elle n'est pas seulement pour Jésus, elle est aussi pour nous. Vous savez pourquoi ? Parce que le principe de mort par laquelle la vie va jaillir, si nous acceptons la mort avec Christ, nous verrons la vie avec Christ qui va exploser. Donc, lisons la suite d'ailleurs. Hein. Il est dit, là je suis toujours au chapitre 12, on a lu jusqu'au verset 24. Enfin, on va reprendre déjà. Oui, 24. En vérité, je vous l'assure, si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Entre parenthèses, dans 24 heures de hier, il y a un article à propos de la mort de Jésus où l'auteur met en évidence que les musulmans, ils ne croient pas que ça soit Jésus qui soit mort. En tout cas, la plupart des musulmans. Ils croient que Jésus a été enlevé au ciel directement par Dieu, où il est maintenant, en attendant son retour, mais pas son retour comme nous l'attendons. Hein. Bref. Mais ce n'est pas lui qui est mort sur la croix, c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemblait. Ça, c'est l'inverse de ce que Jésus enseigne avec l'histoire du grain de blé. Le grain de blé ne meurt pas, il est trop bien, il est trop précieux. Les musulmans disent, le Coran dit, Allah ne pouvait pas livrer son précieux fils à la mort, c'est pas possible, à des tourments pareils, une mort aussi scandaleuse, aussi ignominieuse, c'est pas possible. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Donc si on enlève cette réalité de la mort, on enlève aussi la réalité de la vie et de la résurrection. On a beau dire que Jésus vit dans le ciel. Celui qui aime, alors c'est là qu'on est concerné. Celui qui aime sa vie telle qu'il l'a reçue de cette terre, telle qu'elle est devenue à travers le péché d'Adam et Ève, celui qui aime sa vie, qui chérit, qui bichonne sa vie pour qu'elle soit le mieux possible pendant quelques années de vie, et qui se préserve, qui veut la garder, eh bien il la perdra. Jésus est très clair, celui qui fait ça, qui veut préserver sa vie comme elle est, il a même beau être croyant, il a beau même s'asseoir dans les bancs d'une église, s'il se contente juste de ça, s'il ne perd pas sa vie pour la remettre entièrement par la foi entre les mains de Dieu, eh ben, il va la perdre. Il aura juste les années qu'il aura vécues. Peut-être qu'il sera un prix Nobel, peut-être qu'il aura eu quelques succès, mais ça ne change rien. Finalement, il retourne à la poussière. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui a de la haine pour sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Là, je précise une chose. Jésus, quand il dit celui qui aime sa vie, non, qui n'a pas la haine de sa vie va la perdre, il ne veut pas dire que nous devons nous détester nous-mêmes. Ce n'est absolument pas dans ce sens-là. Jésus ne nous a jamais dit qu'il fallait nous détester nous-mêmes, nous dénigrer, etc. Ce qu'il veut dire, c'est si tu t'attaches à l'image que tu te donnes, par laquelle tu essayes d'être quelqu'un un peu supérieur aux autres, ou au contraire, tu te dénigres toi-même parce que tu crois que c'est plus humble de se dénigrer soi-même, tu es à côté de la plaque. Que tu t'attaches à toi-même à la vie que tu as reçue de tes parents, avec tous ces manquements, avec toutes ces infidélités, avec toutes ces déceptions, avec son orgueil, tu vas la perdre, cette vie-là. Mais si, par contre, tu dis non, cette vie, c'est un don de Dieu, je l'ai reçue, c'est entendu, on est d'accord, Dieu est bon, il m'a donné la vie. Mais c'est pas, je ne compte pas sur cette vie pour m'en sortir, et je ne compte pas sur cette vie pour être glorieux. Je compte sur la vie que Dieu veut me donner. C'est cette vie éternelle que je veux recevoir. Et je suis d'accord, en suivant Jésus, mon trésor et mon Dieu, à la fois de me réjouir dans une gloire extraordinaire, dans une joie extraordinaire, à certains moments, des moments d'extase spirituelle. Mais aussi, j'accepte de suivre Jésus dans son chemin de serviteur de Dieu. J'accepte de marcher derrière lui. J'accepte, si on lui crache dessus, on me crache dessus. J'accepte ça. J'accepte les coups. J'accepte les persécutions aussi. Ça fait aussi partie de cette vie glorieuse. Parce que quand je suis Jésus, comme le dit Jésus un peu plus loin, là où je serai, sera aussi mon disciple. C'est-à-dire, si Jésus est dans le succès temporaire de foule qui se convertissent et qui louent Dieu, je serai honoré avec Jésus à ce moment-là. Je serai dans l'extase, je dirai, Seigneur, mais c'est trop beau, c'est extraordinaire. Les gens se tournent vers toi parce que j'ai témoigné. Les gens se tournent vers toi parce que je les ai servis. Les gens se tournent vers toi parce que je me suis dévoué, je me suis donné selon les commandements que ton Père, que Dieu nous a laissés. J'ai aimé les gens et ça a marché. Mais ça peut être aussi dans un autre sens. J'ai fait ce qu'il fallait et puis ça n'a pas marché. Les gens se sont détournés, ils sont rebelles. Ils restent dans leur saleté. Ils restent dans l'incrédulité. Ils se croient plus malins parce qu'ils restent incrédules. Ils se croient plus intelligents parce qu'ils disent qu'ils ont des doutes et qu'ils n'y croient pas. Ils se croient des supérieurs parce qu'ils disent ça. Et je subis aussi la même opprobre que le Seigneur. C'est sur moi que ça retombe aussi. Et ça, c'est partager la gloire du Seigneur. Hein. Parce que Jésus, il disait qu'il allait être glorifié, pas seulement dans l'élévation à 40 jours plus tard, à l'ascension. Quand Jésus disait qu'il devait être glorifié, c'est pas seulement parce qu'il serait élevé dans le ciel. Alors ça, oui, c'est une gloire extraordinaire qui n'est pas visible du monde, le monde ne le voit pas. Mais nous le voyons. Mais Jésus disait aussi, quand j'aurai été élevé de la terre, on va le lire parce qu'il prend cette élévation au sens de la croix. Sur la croix, Jésus a été élevé. Le Fils de l'homme a été élevé sur la croix de 50 cm ou de 80 cm au-dessus de la terre. Il a déjà été élevé là. Jésus a été élevé sur la croix et ensuite il a été élevé dans la résurrection, dans la gloire. Mais il faut accepter ces deux choses-là. Jésus, pour être élevé dans le ciel avec en nous prenant avec lui, avant cet épisode-là qui n'est pas encore arrivé. Oui, Jésus a été élevé, oui. Ça, c'est arrivé, mais pas nous. Il faut d'abord qu'il ait été élevé de quelques centimètres au-dessus de la terre, dans la gloire de la croix, parce que la croix est glorieuse. Les pères de l'Église ont dit, ils ont parlé de la croix glorieuse. La croix est glorieuse, c'est le commencement de la gloire de Jésus, c'est que la croix est glorieuse. Et en passant par la croix, Jésus a été glorifié. Dieu lui a rendu gloire. Et cette gloire se manifeste le troisième jour quand il est ressuscité des morts. Et là, nous sommes pris avec. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Je suis au verset 26. Si quelqu'un me sert ou veut me servir, qu'il me suive. Il faut qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est triste et troublée, troublée. Mon âme est troublée, il le dit. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Est-ce que c'est ça que je dois dire ? Est-ce que c'est cette prière que je dois élever ? Seigneur, d'ailleurs, il l'a élevée à Gethsémané. Seigneur, si c'est possible, épargne-moi cette journée que je dois vivre là. Si c'est possible. Mais que ta volonté se fasse, pas la mienne. Mais c'est pour cela, c'est pour cette heure-là que je suis venu jusqu'à maintenant sur la terre. Père, glorifie ton nom. Dans un premier temps, ne me glorifie pas moi, mais glorifie ton nom. Mais en glorifiant son nom, le Père va glorifier son Fils, déjà sur la croix. Et une voix vint du ciel et dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Je l'ai glorifié parce que je lui ai donné la puissance du Saint-Esprit, parce que je lui ai donné le pouvoir de faire des miracles et des guérisons, de délivrer des démoniaques, de marcher sur l'eau, de multiplier les pains, de ressusciter des morts. Je l'ai glorifié déjà, mais je le glorifierai encore à travers la croix. Ça aura l'air d'être tout l'inverse aux yeux du monde, mais ça sera une gloire encore plus grande qui va déboucher sur la multiplication de la semence, sur la semence qui va germer, qui va produire une moisson, une moisson. Voilà. Donc, le même principe, c'est mon dernier point, le même principe de la croix, de la mort, qui a été radicalement vécu par Jésus au point qu'il a été mort et abandonné, même abandonné pendant quelques heures. Jésus a vécu l'enfer pendant quelques heures. Est-ce qu'il y a une grande différence entre quelques heures et l'éternité dans le ciel, dans le monde des morts ? Je ne sais pas. En tout cas, il a vécu l'enfer. Mais il est glorieusement ressuscité. Eh bien, nous n'avons pas à faire ce que Jésus a fait. Ce n'est pas possible. Nous ne devons ni faire ce que Jésus a fait, ni le vivre. Parce que c'est fait. Il l'a fait une fois pour toutes. C'est fait. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Mais par contre, Jésus nous dit, si vous voulez venir avec moi, si vous voulez me servir, parce que vous êtes convaincus que c'est ça, la voie de la justice et du bien, vous avez raison, mais alors suivez-moi. Et là où je serai, vous serez avec moi. Dans la gloire, mais aussi dans la persécution, ou dans toutes sortes de choses difficiles. Oui, suivez-moi. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Eh bien, ça veut dire que, moi je dirais, le premier pas de base, c'est le pardon. C'est la vie de pardon. C'est-à-dire que si des gens nous ont fait du tort, eh bien, au lieu de garder notre rancune pour leur faire payer ce qu'ils ont fait, nous préférons mourir à notre orgueil, mourir à notre fierté, mourir à nous-mêmes et pardonner à ces gens. Au moins offrir le pardon. Et s'ils l'acceptent, ils seront pardonnés. Ou inversement, si c'est nous qui avons fait du tort à des gens, eh bien, nous abandonnons cet orgueil, cette fierté qui veut ne pas reconnaître cela, pour rester dans son bon droit. Et nous renonçons à cette sorte de rébellion et nous disons, je te demande pardon, parce que j'ai fauté. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est à cause de Jésus. Il a fait cela. Nous pouvons le faire, nous aussi. Ça, c'est le grain qui meurt. Ça, c'est abandonner sa vie. Je prends cet exemple basique, mais ça concerne tous les domaines de la vie, où le Seigneur nous appelle à mourir à nos plans qu'on avait d'abord, à toutes sortes d'échafaudages, d'idées, de choses comme ça qui sont encore marquées par une saleté quelque part, par quelque chose qui n'est pas juste complètement. On abandonne ça. Seigneur, je te demande pardon. Je viens tu fais de moi une semence. Et je veux que soit libérée la puissance du Saint-Esprit en moi. Pas juste sous forme de paroles comme ça, que j'ai appris un peu par cœur, mais que soit libérée cette vie. Oui, Seigneur. Je veux que tu puisses te glorifier à travers moi. Et c'est pourquoi ce que Jésus a fait, je ne peux pas le faire, mais je peux avoir le même esprit de sacrifice, de don de moi-même pour que toi, tu vives en moi. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que la fête de Pâques, c'est aussi la fête de Vendredi Saint. C'est aussi la gloire du crucifié. Mais c'est aussi la mort à moi-même, comme on dit des fois, parce que c'est la condition pour que la vie nouvelle soit multipliée. Alléluia, Seigneur. C'est vraiment notre désir. Oui, Seigneur, c'est un message qui a quelque chose d'un peu rude, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je veux vivre cela, même si je dois en souffrir, parce que tu habites en moi dans ta gloire. Et en fait, tu me glorifies déjà, tu nous glorifies déjà. Nous avons déjà part au bien céleste. Nous avons déjà part au royaume de Dieu. Nous avons déjà part à la vie éternelle. Mais alors, nous voulons aussi accepter le principe de mort. Nous. Pas pour mourir, mais pour nous donner dans l'amour, comme toi, tu t'es donné pour nous sauver. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Implante ce message, implante-le profondément, qu'il dure, qu'il s'inscrive en nous pour toujours, pas pour une saison, mais pour toujours. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Tu bénis mes frères et sœurs ici, tu bénis ceux qui écoutent sur leur ordinateur, tu bénis tout ton peuple dans notre pays, dans la Suisse, mais dans le monde entier, et même dans cette Europe malade. Seigneur, c'est peu de choses d'être atteint par le Covid en comparaison de la gloire que tu nous donnes. Oh oui, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu viens et tu nous prends avec toi. Alléluia. Amen.